Where's the beat? directement de tes revendications. Et les juges, inversement, peuvent dire aux avocats, ben voici, nous, on n'est pas satisfait de tel aspect. C'est des comités liés avec la magistrature. Il y en a différents cours, cours supérieurs, cours d'appel, cours du Québec, ainsi de suite. On a beaucoup de comités de liaison. Il y a 40 comités en tout bord de Montréal. On a aussi des comités plus spécifiques, par exemple, avocats dans la profession, la diversité ethnoculturelle, LGBTQ. Donc, c'est des comités qui sont plus spécifiques, qui font, ben, vous avez comme par exemple, ethnoculturelle. Ça regroupe des avocats qui disent qu'ils sont membres de diversité ethnoculturelle. Et on étudie des sujets qui concernent pas les membres, mais les membres du bord de Montréal qui sont membres de la communauté culturelle, avocats dans leur profession également, et LGBTQ également. Donc, c'est une communauté spécifique. Et d'autres choses qu'on fait, on fait aussi des formations pour les avocats. On offre diverses formations sur beaucoup de sujets aux avocats pour qu'ils puissent améliorer leur pratique. C'est un petit volet. Un autre volet qui peut être intéressant pour le public, parce que protection du public, par exemple, on fait ce qu'on appelle un salon visé droit au printemps. Le salon visé droit, c'est que ça réunit les exposants. On fait habituellement, avant la COVID, on amenait les écoles et on faisait des jeux avec les étudiants sur scène. Par exemple, il y avait de l'improvisation, des jeux questionnaires, ainsi de suite, pour essayer d'éduquer le public sur le droit. Dans le fond, le droit les concerne. On est des avocats, mais c'est les concerne, puis souvent, je pense qu'il y a pas un problème d'éducation juridique. Et aussi, on offrait des services juridiques, des consultations juridiques qui étaient les gens qui ont des problèmes juridiques, ils venaient au salon visé droit. Il y avait des avocats qui étaient bénévoles en personne et les gens amenaient leurs problèmes, les avocats leur donnaient des conseils juridiques sur place. Ça, c'était un peu salon visé droit pour les membres. Et un autre volet qu'on fait également, il y a deux concours intéressants pour les jeunes. Il y a un concours justice qui est à bonne mine pour les jeunes du primaire au secondaire. C'est la rédaction sur un thème juridique. Donc, on demande aux écoles de participer et les jeunes du primaire au secondaire peuvent rédiger un sujet sur un thème juridique, faire une rédaction sur un thème juridique et transmettre la rédaction au barreau de Montréal. Et des avocats bénévoles lisent tous les textes envoyés et à la fin, il y a un gagnant. C'est juste à bonne mine. Et on a un autre concours qui s'appelle le concours à trois. C'est également pour ça, c'est pour les jeunes du cégep. Mais là, c'est vraiment un débat à trois. Donc, des étudiants de deux écoles qui s'affrontent sur un thème juridique. L'objectif dans tout ça, c'est d'éduquer le public sur les sujets d'ordre juridique. C'est un peu ce qu'on fait. Mm-hmm. Est-ce que ça vous explique un peu? Aussi, un autre volet qui est important, c'est la protection du public, c'est qu'on fait aussi la pratique illégale. La pratique illégale, c'est les faux avocats, mm-hmm. en parenthèse, les faux avocats qui disent qu'ils sont avocats et qui rencontrent des gens qui leur demandent de l'argent et qui ne donnent pas de service juridique. Ils ne sont pas inscrits au barreau. Le barreau de Montréal poursuit ces gens-là.
Mm-hmm, absolument. Puis, à titre de bâtonnier, c'est quoi exactement que le bâtonnier ou la bâtonnière du barreau de Montréal a comme rôle?
Oui, c'est ça. Le bâtonnier, c'est le porte-parole du barreau. Donc, c'est le leader du conseil d'administration, mm-hmm. des 13 personnes. Donc, c'est sûr que le bâtonnier, quand il arrive en fonction, on arrive tous avec des sujets qui nous interpellent plus. Et ces sujets-là risquent d'être à l'agenda pendant l'année. Et on ajoute notre savoir un peu au barreau, mm-hmm. avec les sujets qui peuvent être pertinents pour les justiciables, soit les avocats ou les membres du public.
Mais c'est vraiment intéressant parce que justement, vous avez mentionné lors de votre nomination à titre de bâtonnier, d'ailleurs félicitations, que vous alliez, lors de votre mandat, travailler sur trois chantiers principaux. Donc, quand vous dites « chacun ajoute un peu sa saveur », vous avez mentionné vouloir élaborer et mettre en œuvre un plan pour favoriser l'inclusion et promouvoir la diversité au sein de la communauté juridique de Montréal, également analyser les enjeux de la gouvernance et élaborer un plan stratégique pour donner une mission plus claire au barreau de Montréal et finalement définir un cadre pour guider le barreau de Montréal dans sa prise de position publique et stratégique. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ces trois points-là, puis comment est-ce qu'on peut faire des liens entre ceux-ci et la lutte contre le racisme systémique, le racisme et le profilage racial?
C'est parti. Donc, je vais vous expliquer les trois sujets, bien entendu. Par exemple, on peut commencer par le premier, qui est le positionnement. Le positionnement, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que je trouve que le Barreau de Montréal a une voix forte, a beaucoup d'influence. Comme je dis, on représente 55% des avocats du Québec. Beaucoup, quand il y a beaucoup de sujets d'actualité, on ne peut pas se le cacher, il y a beaucoup de discussions à Montréal. Je ne sais pas qu'il n'y en a pas dans les autres barreaux, mais il y a beaucoup à Montréal. Et je trouvais que c'était important de pouvoir que le membre de Montréal puisse s'exprimer sur des sujets d'ordre juridique et social quand c'est nécessaire. Bien entendu, notre rôle, ce n'est pas un parti d'opposition, bien entendu. Mais par contre, je pense que ça pourrait être intéressant de faire valoir le point de vue du barreau. Et c'est pour ça qu'on a créé un comité qui s'appelle Comité Positionnement et qui, son rôle, c'est de faire en sorte d'alimenter le conseil d'administration sur des sujets qui peuvent être pertinents, qu'on trouve pertinents. Par exemple, on a pris position sur la loi 96 du gouvernement du Québec, là, la loi sur la Charte de la langue française. Bon, deuxième élément, par exemple, c'est la diversité et l'inclusion. Bon, encore à Montréal, on s'entend que, je pense que j'avais vu une étude sur la ville de Montréal qui disait que le tiers des membres de la communauté montréalaise venait de l'immigration. Donc, Montréal, c'est une ville très diversifiée et notre profession également est beaucoup plus diversifiée que les autres districts, disons-le comme ça. Mm-hmm. Et je trouvais intéressant, souvent j'entends parler souvent des jeunes qui disent que tout ça difficile l'accès à la profession. Donc, c'est pas évident parce que, sauf que, tu sais, on a pas. Est-ce qu'on a la même chance que les autres? Est-ce qu'on est jugé de la même façon que les autres? Est-ce qu'on peut avoir accès aux mêmes promotions que les autres? Mm-hmm. Par exemple, est-ce qu'on peut accéder à la magistrature? Donc, parce que c'est des sujets qui reviennent. Donc, j'ai mis en place un comité qui son rôle d'étudier ce sujet et de pouvoir faire des recommandations au conseil sur comment améliorer la diversité et l'inclusion dans le Barreau de Montréal. Donc, je pense aux membres et également à la magistrature et également... dans le fond, tout ce qui est diversifié. Donc, je trouvais que c'est intéressant. C'est un sujet trop important pour ne pas en parler. Mm-hmm. Donc, je trouvais que... Donc, on a un comité qui se penche là-dessus présentement. L'autre sujet, c'est la planification stratégique. Une planification stratégique... Je ne sais pas, est-ce que vous savez c'est quoi une planification stratégique?
Non, est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Non, c'est ça. Une planification stratégique, par exemple, le barreau, comme je le dis, fait diverses activités, la formation, fait des concours oratoires... On fait la pratique illégale, ainsi de suite. C'est les diverses activités du barreau. Mais si on regarde plus de façon macro, avant tout, il faut regarder c'est quoi la mission du barreau, c'est quoi les valeurs, c'est quoi les objectifs. Le planification stratégique, c'est ça. C'est une vision très macro. On a sondé les membres, on a sondé le conseil, on a parlé à divers amis du barreau de Montréal pour leur dire voici ce qu'on fait, Qu'est-ce que vous pensez de nous? Est-ce que vous pensez qu'on fait les choses de la bonne façon? Est-ce qu'on devrait s'améliorer? C'est ça une planification stratégique. Donc, c'est dire, regardez, on prend une photo maintenant, on regarde ce qu'on fait, on dit, bien, est-ce qu'on a des objectifs pour les 3-4 prochaines années? C'est ça. Donc, avec un plan, fait qu'on a pratiquement terminé la planification stratégique et on a vu nos forces, nos faiblesses, ainsi de suite. Et là, on est en train de regarder pour voir, bien, on ne s'est pas encore adopté au conseil, mais ce n'est pas terminé. Puis voir, une fois qu'on va adopter la planification stratégique, c'est la mission, les valeurs, les objectifs généraux. Après ça, on va le détailler en plan d'action détaillé sur toutes les activités du Barreau de Montréal. On va regarder toutes les activités, on va dire, bon, est-ce que ce qu'on fait comme activité, ça correspond à la planification stratégique qu'on a fait? Puis on va essayer d'améliorer le tout pour que ça s'imbrique bien ensemble. Est-ce que ça s'équilibre bien?
Oui, absolument. Donc c'est ça, c'est vraiment de donner... de voir un peu qu'est-ce qu'on veut faire dans l'avenir, qu'est-ce qu'on veut améliorer, qu'est-ce qu'on veut changer.
C'est ça. De fond, c'est ça. Mais aussi, est-ce qu'il y a un lien avec le profilage racial? C'est ça qui m'a posé comme lien. Il n'y a pas de lien direct avec le profilage racial dans le projet que j'ai. Par contre, mon objectif, c'était vraiment plus de regarder avec les membres du barreau, de voir comment qu'on peut améliorer l'inclusion. Ça touche vraiment pas l'inclusion, parce que le profilage racial, c'est un autre sujet complètement. Mais moi, par contre, ce sujet-là, améliorer la diversité et l'inclusion, je trouve ça important pour m'assurer que les membres qui sont la diversité trouvent leur place dans le milieu juridique, parce qu'on a notre place dans le milieu juridique, on en fait partie. Et comment qu'on peut faire pour qu'ils puissent se sentir membres à part entière, qu'ils puissent se sentir bienvenus. C'est vraiment ça mon cheval de bataille, je vous dirais. Et également, comment on peut faire des liens avec d'autres intervenants, ça peut être d'autres personnes, par exemple la ville de Montréal ou les services de police. Donc, on peut faire des, liens pour s'assurer que nos membres se sentent bien, pour s'assurer que le privilège des avocats sont respectés. Et c'est tous ces liens-là, mais il n'y a pas de lien direct avec, avec le profilage racial.
Mm-hmm. OK. Puis, en fait, c'est ça, je trouve ça très intéressant aussi, vous avez mentionné au début qu'environ le tiers des gens sont issus de l'immigration à Montréal. Puis justement, ça, c'est un peu ce qui vous a, je dirais, peut-être surpris du fait que vous soyez la première personne noire à occuper le poste. Puis dans une entrevue, vous dites que vous comprenez pas trop pourquoi la nouvelle a fait autant les manchettes avec une ville aussi diversifiée que Montréal. Est-ce que vous sentez que ça aurait pu être quelque chose qui aurait dû arriver plus tôt, ou comment est-ce que vous vivez, en fait, le fait d'avoir ce titre de première personne noire à avoir obtenu cette nomination?
Ben, effectivement, moi, ça m'a toujours, ça m'a surpris, parce que Montréal, c'est une ville qui a quand même beaucoup de migrants, d'immigrants, des gens issus de la diversité, et le bord de Montréal également. Ça m'a surpris parce que la question que je me posais, je me dis, parce que moi, mon parcours, c'est vraiment simple. Je me suis impliqué dans Jeunes Barreaux, je m'amusais, j'avais du plaisir, puis j'ai jamais eu beaucoup de... Parce que vous êtes jeune, vous savez comment sont les jeunes. Ben, je me considère comme jeune. Je suis plus jeune.
Même oui, bien sûr. Ben oui. Jeune dame.
Jeune dame. Puis, les jeunes qui m'impliquaient, moi, j'ai jamais senti qu'ils me regardaient par rapport à ma couleur. J'ai senti qu'ils me voyaient comme extra junior. Puis, je me suis impliqué. J'ai jamais senti que j'avais des difficultés pour progresser dans l'organisation du Jeunes Barreaux, également au Barreau. Donc, j'ai jamais senti ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais senti ça. Par contre, je pense que les gens issus de la diversité, ils sont toujours un peu... Moi, parce que je viens de Granby, je viens d'une ville qui avait à l'époque 95% de population blanc francophone. Mm-hmm. Donc, ça m'a jamais intimidé d'être dans un rôle avec des gens qui sont des Québécois.
Différents de moi. Ouais.
C'est ça, parce que j'ai toujours baigné dans ça. Donc, ça, pour moi, c'était tout à fait normal. Mais par contre, je me rappelle quand je suis devenu président de Jeunes Barreaux, quelqu'un m'a dit... On est vraiment fiers parce que ça m'a surpris. Je me disais, tu peux devenir toi aussi, mais je comprends que tout dépendant de notre vécu, de notre bagage, ça peut paraître plus difficile pour d'autres. Moi, je pense que quelqu'un d'autre, une autre personne à la diversité peut également accéder à ce poste-là. Par contre, je pense que tout dépendant de leur bagage, des gens pensent que ça peut être plus difficile pour eux, tout dépendant de leur vécu. Je pense que c'est ça. Puis, mm-hmm. Je trouve ça très, très dommage. Mais pourquoi je trouve ça une non-nouvelle? Parce que je pense qu'une ville comme Montréal, ça devrait... Je suis bien content d'être le premier, là. Mais une ville comme Montréal, ça devrait pas être une nouvelle, dans le sens que...
Ça devrait pas être choquant. Ça devrait pas être genre, oh mon Dieu!
Non, absolument pas. Ça devrait être normal, parce que c'est Montréal, là. Donc, mm-hmm. Mais c'est ça.
Absolument. Puis... Ah oui. Oui, pardon, Dalia, vas-y.
Pardon, excuse-moi, je voulais juste ajouter que, désolée, c'est juste vraiment inspirant, comme c'est vrai que vous êtes la première bataillée de couleur, mais ça nous donne genre un espoir, comme pour le futur, quelqu'un qui nous ressemble un peu plus. Donc, j'aimerais juste souligner les félicitations encore pour votre rôle, puis continuer d'être à l'inspiration de la communauté, parce que c'est important.
Merci beaucoup, Dalia, mais moi, ce que je dirais aux jeunes, s'ils sont... moi, je dirais, c'est que Je crois que les jeunes, en général, sont très ouverts d'esprit. Moi, ce que j'ai remarqué, les jeunes sont très ouverts. Je sais pas pour vous, c'est quoi le vécu que vous avez. Ils sont très ouverts d'esprit et moi, j'encouragerais les gens à toujours aspirer. Je comprends que ça peut être difficile de se voir dans un poste quand qu'on n'a jamais eu de personne qui nous ressemble. Je peux le comprendre. Par contre, je pense qu'on doit aller au-delà de cette situation et de se dire, moi, je suis partie de la société, j'étudie ici, je contribue aux impôts ici, peu importe, là, j'ai le droit au même privilège que tout le monde.
J'ai ma place.
J'ai le droit au même privilège que tout le monde. Puis, je vais tenter ma chance tant que je réussis pas. Tant que je réussis pas. J'arrêterai pas tant que je réussis pas. Je pense que c'est ça qu'on doit se dire. Puis, les gens vont finir par réussir parce que moi, parce que ça me surprend, parce que moi, je considère pas que je suis la personne avec le plus intelligent, le plus de talent. Je suis juste motivé, puis j'ai du plaisir, puis ça fonctionne. Mais par contre, je suis persévérant. Donc, je disais à la personne, si vous pensez que tel poste, vous le méritez, mais appliquez. Présentez-vous et faites ce qu'il y a à faire, puis vous allez réussir. Si j'ai réussi, là, ben, moi, je pense que tout le monde peut réussir. Personnellement.
Mais je pense que c'est vraiment vraiment une très très bonne façon de voir les choses justement, puis toute l'importance un peu de la représentativité, tout le poids symbolique que ça peut avoir. Puis justement, si on parle encore de l'importance de la représentativité au sein de la profession, vous parliez aussi, pas juste au sein des avocats, mais également la magistrature. Puis parfois, on voit qu'il peut y avoir une difficulté pour certains juges, peut-être d'appréhender, de comprendre la réalité des victimes de profilage racial, et même en ce qui a trait à reconnaître la preuve de profilage racial en elle-même. Donc, est-ce que vous auriez peut-être des pistes de solutions? Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'avoir plus de diversité au sein de la magistrature, de former les juges en conséquence de nos réalités sociales, de faire les deux en même temps? Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Personnellement, moi, je pense que les deux en même temps, vraiment, là, je trouve que c'est une bonne idée. Surtout la diversité de la magistrature, parce que je crois qu'il faut avoir une magistrature représentative de la société dans laquelle on vit, parce que je pense que c'est vraiment important, parce que les gens, en tant que tels, entre eux, discutent. Bien entendu, si on a des collègues qui sont sur la diversité, je suis pas mal certain que ils risquent d'avoir des conversations différentes et peut-être leurs points de vue peuvent être différents également. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument avoir une magistrature plus diversifiée parce que juste parce que je pense que c'est important que la population, juste pour le respect des décisions, je pense que c'est important que la population puisse comprendre, pouvoir que les gens qui sont la société, puis voir qu'ils peuvent accéder à ces postes-là. Et je pense que ça va juste aider au fait qu'on accepte mieux les décisions qui sont rendues, parce qu'on va plus avoir confiance. C'est aussi simple que ça. Je ne pense pas à la diversité pour la diversité, mais je pense que c'est important pour ce facteur de cohésion sociale, à mon avis. C'est vraiment important d'avoir cohésion sociale et aussi d'intégration. Je pense que c'est vraiment important d'avoir la diversité dans la magistrature. Je pense que même la magistrature reconnaît qu'il manque de diversité. La Cour du Québec, la Cour supérieure, je pense qu'on reconnaît qu'il manque de diversité. Par contre, je pense qu'on doit travailler pour que des gens issus de la diversité puissent pouvoir accéder à ces postes-là. Je ne sais pas exactement comment, mais je vous dirais que j'ose croire qu'on va trouver. Peut-être que les gens issus de la diversité pensent qu'ils n'ont pas le profil nécessaire. Ils ne peuvent pas appliquer à cause de telle ou telle raison. On veut des gens qui sont intelligents et qui sont bons en droit, qui sont capables de raisonner, qui sont capables de raisonner comme juge. Donc, c'est le seul critère, et comme ça, on devrait. Il faudrait une façon de faire en sorte que les gens de la société puissent dire que, bon, on pense qu'on peut quand même accéder à la magistrature. D'après ce que je comprends, il y a peu de gens de la diversité qui appellent, d'après ce qu'on entend de la magistrature. Ben, je pense que un rôle comme avocat, comme bâtonnier, c'est d'unité pour inciter les gens de la diversité à appliquer la magistrature. Pour ce qui est de l'enseignement, bien entendu, je pense que plus qu'on apprend, mieux que c'est, dans le sens que c'est plus qu'on apprend, parce que tant qu'on rencontre des gens, par exemple, qu'on est juste, on rencontre des gens qui viennent d'horizons divers, bien entendu, je pense que si on connaît plus, si on connaît plus, si on connaît plus un peu leur background, si on connaît plus un peu comment ils vivent, si on peut plus avoir de l'information pour mieux comprendre ces gens-là, c'est mieux pour tout le monde, à mon avis. Bien entendu, si on peut avoir plus de formation pour aider les juges dans ce domaine-là, mais je suis vraiment pour.
Puis vous mentionnez aussi que justement le barreau de Montréal a une voix, puis le barreau de Montréal peut se positionner sur certaines questions. Est-ce que vous pensez que, par exemple, les questions de représentativité au sein de la profession et au sein de la magistrature, est-ce que vous pensez que c'est des choses que le barreau de Montréal pourrait se prononcer là-dessus ou est-ce que ça sort un peu du cadre
Vous avez
que vous
dit,
recherchez?
c'est quoi les deux sujets? J'ai mal compris.
La représentativité au sein de la profession juridique, mais aussi au sein de la magistrature.
Bien entendu, pour ce qui est de la représentativité sur la magistrature, je ne pense pas qu'on a besoin de prendre possible. Parce qu'en fond, les juges le reconnaissent. La question de savoir, une fois que la magistrature le reconnaisse, comment qu'on fait pour qu'il y en ait plus. Je pense que c'est plus ça l'enjeu. Pour ce qui est de la représentativité, bien entendu, nous, ce qu'on regarde dans Montréal, quand on regarde les sujets d'actualité, on voit mais comment qu'on peut, par exemple, une prise de position, on prend une position qu'on pense que ça peut faire, qu'on peut faire évoluer le débat. Par contre, moi, ce que je regarde, c'est j'ose croire que cette année, on va pouvoir mettre certains chantiers en branle, certains chantiers en marche pour surtout la représentativité de la profession. Je pense que c'est important parce que si on regarde les cohortes d'étudiants qui arrivent, ils sont très diversifiés, je fais des présentations. Il faut s'assurer que les gens se sentent bien, se sentent accueillis, se sentent qu'ils sont à leur place. Prendre position, je ne sais pas, mais par contre, je pense qu'on est plus rendu à l'étape des actions pour ces deux sujets-là. Parce que prendre position, c'est écrire une
Absolument.
communiqué, dire on est pour ça, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que là, on est
Qu'est-ce
rendu
qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la machine, comment qu'on fait pour essayer d'aider à la diversifier et aussi pour ce qui est de la représentativité? Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de faire en sorte que ce soit plus diversifié, que les gens se sentent bien accueillis?
Absolument. Donc, on serait plus dans une étape de voir c'est quelle action concrète aurait un impact
Oui, effectivement,
sur ça.
le puis il y a des gens qui travaillent en ce en, il y a des gens qui travaillent en ce sens, on travaille en ce sens. Je sais que le Barreau du Québec travaille en ce sens sur certains sujets d'université. Je sais qu'il y a des groupes, l'Association des avocats noirs, Division Québec, travaille également sur ça. Fait que dans le fond, je pense que faut juste aligner nos flûtes, là. Je pense on voit tous qu'il y a une certaine problématique.
Absolument. Puis, si on peut terminer un peu sur une note un petit peu plus positive, vous avez mentionné dans une entrevue, j'ouvre les guillemets, je souhaite que les jeunes de la diversité qui veulent devenir avocats comprennent qu'il y a un espace pour eux, fermez les guillemets. Donc, c'est ça, vous avez mentionné ça à quelques reprises. Puis, Dalia aussi, tu as mentionné justement l'importance symbolique de la représentativité. Donc, comme vous êtes très impliqué dans votre milieu, est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de l'impact que l'implication a pour tous les jeunes étudiants en droit, les jeunes avocats qui veulent s'impliquer. Donc, de manière générale, à quel point c'est important, puis à quel point c'est nécessaire même de s'impliquer dans son milieu.
Moi, je trouve que je suis l'exemple parfait, honnêtement, là, pour vous, là, je suis l'exemple parfait parce que je le dis à chaque assermentation, parce que quand à Montréal, quand les nouveaux avocats sont assermentés, sont terminés leur stage, je préside, la, je préside, donc je participe à la cérémonie de l'assermentation. Je leur dis toujours de s'impliquer au barreau. Je suis l'exemple parfait. Pourquoi? Si je suis devenu président du barreau et bâtonnier, c'est uniquement à cause que je me suis impliqué. Rien d'autre. Parce que je me rappelle quand j'ai commencé, bon, l'objectif au début, c'est d'avoir des amis, parce que je n'étais pas de Montréal. Puis ça a mené à ça aujourd'hui. L'implication est vraiment importante parce que moi, j'ai beaucoup d'amis que j'ai fait au jeune barreau qui sont encore de très, très bons amis. Je me suis trouvé des très, très bons amis. Et deux, j'ai senti qu'en m'impliquant, je peux faire une différence. Par exemple, que ce soit au jeune barreau, que ce soit au barreau de Montréal, j'ai senti que mes opinions étaient prises en compte et que je pouvais faire une différence dans les organisations dans lesquelles je m'impliquais. Ça peut être même à Éducalo également dans lequel je m'implique présentement. Donc, vraiment, l'implication, je pense, je dirais aux gens, je comprends que quand on commence la pratique, c'est important de pouvoir travailler fort, soit apprendre notre métier. C'est vraiment important. faut jamais oublier aussi de pouvoir toujours faire en sorte d'avoir un très bon réseau de contact. Et une des façons d'avoir un bon réseau de contact, c'est de s'impliquer dans les organisations. Parce que quand on est autour de la table, on est dans une communauté de jeunes barreaux dormants avec des gens autour de la table. Mais ces gens-là, on va les revoir après. Ils vont devenir soit des collègues. Si on cherche un emploi un jour, on va dire « Hey, je cherche un emploi. » Ces gens-là vont pouvoir nous aider. Si on a notre propre pratique, on cherche des personnes qui travaillent avec nous, ces gens vont nous aider. Donc, on se retrouve à vraiment se créer un cercle autour de nous qui va vraiment nous être utile pour la vie. Faites pas ça. Faites pas ça parce que ça vous est utile. Faites pas ça. Faites ça parce que un, ça vous intéresse, mais je vous dis, ça va être utile. Mais je vous dirais, impliquez-vous dans un domaine qui vous intéresse. Moi, je l'ai fait aux jeunes barreaux puis aux barreaux parce que c'est intéressant. Si vous aimez les affaires, impliquez-vous dans un organisme de semaine. Si vous aimez faites ça. Dans le sens que, par contre, je vous dis juste aux gens, impliquez-vous. C'est vraiment, vous allez voir que, avec le temps, ça va vous être utile. Vous allez impliquer dans un organisme qui vous intéresse. Et faites-le pas juste pour ça, vous allez voir qu'au bout du compte, ça va vous être utile, ça va vous aider, ça va vous aider. C'est vraiment utile.
Mm-hmm. Oui, absolument. Ouais. Puis ça va vous aider aussi à marquer positivement votre communauté, puis tout l'entourage. De manière générale, parfois, tu sais, on va s'engager pour s'engager, mais après, on voit pas justement tout l'effet positif qu'on peut avoir sur les autres, qu'on peut avoir sur notre communauté, donc...
Ouais, effectivement.
C'est vraiment positif. Ouais. Mais je tiens à vous remercier, Maître Laguerre, d'avoir participé à cet épisode avec nous. Je tiens aussi à remercier nos partenaires, donc la Ville de Montréal, pour sa généreuse contribution. Et on rappelle que Touche pas à mes droits est un projet en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Je salue également ma co-animatrice Dahlia, Zenga de Neolabs, ainsi que la clinique juridique de Saint-Michel. Donc, merci à tous d'avoir participé. Ce fut vraiment une conversation enrichissante et au plaisir de vous revoir bientôt.
Ben, j'aimerais, avant de finir, de vous remercier beaucoup à vous deux de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir de vous avoir rencontré. Félicitations, vous êtes vraiment très, très sharp. En passant, vous avez fait vos recherches.
Merci.
Vous êtes très sharp et félicitations pour votre beau travail. Écoutez, j'ai hâte de vous voir au Barreau de Montréal parce que vous êtes des gens de Montréal.
Oui, ben oui.
Au Barreau de Montréal un jour. Et j'ai hâte de vous voir dans la pratique. Puis si vous me voyez, faites-moi coucou, ça me fait plaisir de vous parler. Je suis pas très snob, là.
Parfait.
Très approchable. Mais félicitations et bonne fin de session. Bon début de session.
Merci infiniment.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Neolabs, la Ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
CKUT, les vibrations de la communauté. CKUT FM 90.3.
À qui les donner? À nous les donner!
Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, on est le produit. Particulièrement dans le cas de l'hébergement des courriels et des sites web où les compagnies multinationales se battent pour les profits produits par les magnifiques communications de vos organisations. Kumbit est une coopérative de travail qui essaye d'aider les petites organisations ou les particuliers à se réapproprier leurs communications par l'hébergement de courriels et de sites web ainsi que par la création de sites web. Si c'est votre désir, contactez-nous à kumbit.org. ou par courriel à info@kumbit.org, KOUMBIT.org. On n'est pas sur Facebook.
Le Prison Radio Show est une émission radio avec des nouvelles pour les prisonnières et leurs alliés et familles. L'émission cherche à confronter l'invisibilité des prisons et la lutte des prisonnières en se concentrant sur les racines de l'incarcération, de la police et de la criminalisation. Nous sommes dédiés à des programmes qui collaborent directement avec des personnes actuellement incarcérées. Dans cet esprit, nous aimerions vous faire savoir qu'on a une ligne téléphonique pour les prisonnières et leurs amis et familles. Vous pouvez nous appeler Collect de la prison de Bordeaux et de la prison Rivière-des-Prairies en composant le numéro 514-876-3748. Encore une fois, c'est 514-876-3748 pour les appels Collect. On a aussi un numéro normal qui est 438-337-8423. N'hésitez pas à appeler ce numéro et à nous laisser un message avec des nouvelles à partager sur l'émission ou un message audio pour vos proches à l'intérieur.
Stats, prison is a gold mine camp with no buybacks. Nigga, it's a wizard in the system holding all my blacks. It started in 1640, shackles around my ankles. Melanin meant that I can't go to schools or read, cause who's gonna serve my master? Also, the pastor described all my people as the sheep who exist to keep the land. We feed the economy, creep all the crops, but then feed on it modestly, consciously knowing you're lesser than. And lighter skin means that you're better now. So you in the house taking whips and probably dick, cause well, you a fetish now. Meanwhile, I'm grateful for all that I'm given. I'm picking this cotton in rhythm. I pray for a lot of the living. Escaping is probably a sin, and if God ever finds out that I want my freedom, well damn, then God's gonna call in the rap. Two horses with opposite maps. Those nooses, they up in the trees and I'm hanging, but I'll never fall like my pants. Then came the 13th Amendment, written in 1865. It says, slavery is over. Acceptance, pay for doing crime. And then the things that they made illegal are things you associate with people who now education isn't equal. And they getting paid enough to eat, so we stealing and jugging and shit. We need to be fully equipped. The system the new slave master brought in to stop us and bullying shit. Cause before we were stealing and jugging, the laws we was breaking was loitering. We go to the bin, then we can't pay to find out the jail is who your employer is. This voyage is super intentional. You used to be students in medical. The Moors and indigenous blacks were the smartest and honestly truest professionals, literally teaching you about chemicals. My history isn't viewed on a pedestal. Try to tell me only few of my ancestors had anything to offer. If we wasn't strong, you would never bother. If we wasn't awesome, you never put all of your resources in just to get to conquer. If we ain't a problem, then why would you want all the youngins who black not to have a father? Cause slavery showed black youth for mad years that whiteness is right. Your ma getting fucked, your dad getting whipped, but white is the light. And sometimes master blesses you for being a good slave and kills you off if you a bad one. So black mothers tell their daughters fuck the master and they tell their sons they can't run. Mama raised the girls independent and she raised the boys out of fear. These days black women representing the struggle that these black boys trying to clear. Man, we have so much work to do.
CKUT 90.3 FM, Montreal. Thank you.
C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
Pledge resistance!
What's up? This is Saul Williams chilling here in Montreal, here on CKUT. Peace.
We pledge alliance with those who have undergone attack for voicing opposition to the war.
Welcome to Queer Core on CKUT 90.3 FM. Montreal's only queer culture show that bridges any divide between queer sex and radical queer politics. Due to the fabulous nature of queer experience, tonight's program may contain sexually explicit or coarse language. You've been advised.